Cité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 3 avril 2023 et comme l'a annoncé Vanessa, la petite voix du jingle, il est bien 18h, heure française. Ailleurs dans le monde, il est par exemple midi à New York et vous attendez sûrement avec impatience le procès de Donald Trump qui s'en vient. Qui aurait cru qu'une porn star sauverait les États-Unis du chaos? Plus loin, en Australie, il est 2h du matin. Et les aborigènes pleurent encore la mort de leur chef adoré, Yunu Pingu. Rest in peace, Bali, t'as fait déjà beaucoup pour eux. Et puis à Lomé, au Togo, il est 16h. C'est la pause goûter, l'occasion de s'enfiler quelques gaou de coco, coco avec deux K. Alors rien à voir avec Magic System qui preniez gaou n'est pas gaou. Non, ce sont là des petits beignets frits. Et si on a de la chance, peut-être que nos invités du jour nous donneront la recette. Effectivement, nous sommes ravis d'accueillir dans les studios de Prune le groupe Agogazo, ou un savoureux mélange entre la musique traditionnelle et électronique togolaise, le tout mixé au mixeur par une production nantaise. Ametek, le chanteur, Sophie, la manageuse d'Abstract et Jocelyn, le programmateur de Trampon, seront avec nous et surtout avec Lisa. Dans la deuxième partie de l'émission, stay tuned. Bon, entre deux bouchées, nous écouterons les chroniques de Camilia, d'Enzo et de Victor, de la musique et bien d'autres surprises envoyées par Kellig et Lola à la régie. Alors voilà, bienvenue à bord de notre émission. Attention, il va y avoir de la houle puisque nous commençons avec une interview pré-enregistrée de Rose, une témoin qui était à Sainte-Soline lors du combat des chefs, des irréductibles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Merci à eux. Curiosité, c'est parti.
Curiosité, le Zoom Actu.
Alors, il y a quelques jours, des gens bien se sont mobilisés contre les méga-bassines du site de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Alors, pour diffuser toutes les infos utiles aux manifestants avant et pendant l'événement, une méga-radio s'est mise en place. Rose a participé à cette radio et nous raconte son expérience.
Bonjour Rose, merci d'être avec nous sur Prune.
Bonjour.
Alors tout d'abord, puisque c'est une initiative assez peu commune et peu connue encore, comment est-ce que tu décrirais Méga Radio ?
Eh bien, je dirais que Méga Radio, c'est une initiative collective dans le sillage des soulèvements de la Terre. Ce sont différentes radios associatives et différents membres de ces radios associatives réunis autour d'émissions spécifiquement qui se sont rassemblés en fait autour de ce projet avec des personnes qui étaient aussi des gens non affiliés à des radios associatives en particulier, mais qui étaient tout simplement des gens de radio. Toutes ces personnes en fait se sont rassemblées autour de ce projet. Ont mutualisé leurs connaissances, leur savoir-faire, dans l'idée de tenir en fait cet espace de dialogue et d'échange, cette radio éphémère pendant plusieurs jours. Le studio était hébergé dans des locaux prêtés par la ville de Mel. On a pu, grâce à cela, maintenir une antenne de qualité, bien que malheureusement on n'a pas pu obtenir la FM comme on l'aurait souhaité initialement et que tout était en stream, mais on a quand même été relayé par des radios associatives durant le week-end qui diffusaient nos contenus en fait via leur FM. Donc voilà comment je décrirais Méga Radio, quoi, une très belle aventure collective dans le cadre effectivement d'une mobilisation à laquelle on était toutes et tous sensibles et sensibilisés.
Est-ce que c'est avant tout une radio pour donner des indications aux personnes mobilisées avant ou pendant le mouvement? Ou est-ce que c'est pour suivre, couvrir le mouvement vraiment en tant que journaliste?
Alors effectivement, il y avait des personnes qui étaient membres de Méga Radio et qui étaient en fait présentes et présents avec une double attention, si je puis dire. C'est-à-dire que c'était des personnes qui couvraient le mouvement aussi en tant que journaliste ou autre d'ailleurs. Mais en tout cas pour des projets à part ou annexes, et qui dans le même temps participaient à Méga Radio. Et on avait dans le même temps des personnes qui n'étaient là que pour le projet Méga Radio. Ensuite, c'est vrai que l'idée c'était quand même d'informer le plus possible les personnes mobilisées, les personnes qui allaient se mobiliser, j'irais peut-être même jusqu'à dire les personnes qui hésitaient à se mobiliser, puisqu'en amont, en fait, des diffusions en direct. L'idée, c'était vraiment de donner une priorité au direct. Dans les faits, ce n'est pas toujours possible. Et on avait aussi mutualisé des émissions que certaines et certains avaient réalisées en amont de la mobilisation. Des émissions qui permettaient en fait d'informer aussi avec le plus de justesse possible. Et donc l'idée c'était aussi de transmettre à toutes ces personnes qui allaient se mobiliser et qui étaient sur les routes de France en direction de la mégabassine et du campement de Vanzée, et bien tous les éléments en fait de communication que nous on avait en notre possession, tout ce qui était relatif à la base arrière qui était donc située dans la commune de Mel et qui était une base arrière en l'occurrence très structurée, très importante, avec un espace des validistes, un espace VSS, un espace pour toutes les personnes qui auraient besoin de soins psychologiques, un espace garderie pour les personnes qui souhaitaient se mobiliser et qui souhaitaient laisser leur enfant à Mel. Il y avait bien sûr toutes les informations relatives à l'infoline. Quand je dis information, eh bien, ce sont les numéros de téléphone, comment on contacte, qui on contacte, et évidemment les avocates et les avocats dont on retransmettait aussi le plus souvent possible les numéros en cas de besoin. Voilà. Et donc il était aussi possible de contacter Méga Radio en direct, de nous envoyer des vocaux. C'est un moyen de communication qui a été très utilisé en fait par les personnes qui se mobilisaient, et cela a créé un lien en fait entre nous, Méga Radio, depuis les studios à Mel, et les personnes mobilisées auxquelles on ne s'attendait pas forcément en fait. Enfin, on ne s'attendait pas forcément à ce que ça fonctionne aussi bien, et c'est vrai qu'on a des personnes qui nous ont contactés depuis leur véhicule, qui nous ont envoyé des vocaux vraiment géniaux où ils enregistraient des chansons, des parodies. Je pense que voilà, ça motivait en fait tout le monde aussi. Et donc oui, pendant le mouvement, il était aussi possible en fait de nous contacter. On avait un numéro de téléphone à disposition et il était possible de nous contacter depuis les cortèges, depuis le campement, depuis n'importe quel endroit comme on le souhaitait, en nous envoyant des vocaux et que nous, on décidait de retransmettre ou pas, mais le plus souvent on les a retransmis. Et ouais, j'ai l'impression en fait, d'après les retours qu'on a eus, que cela a créé quelque chose de très rassurant en fait pour les personnes mobilisées, à savoir que nous, en tant que radio qui émettions en direct durant tout ce temps du mouvement, donc là j'entends vraiment durant tout le week-end, hein, pas seulement le samedi, mais de savoir qu'on était là en fait en base arrière, avec effectivement toutes ces personnes aussi autour de nous, hein, qui étaient très mobilisées dans les autres pôles que j'ai décrits tout à l'heure. Et bien, d'après les retours qu'on a eus des personnes qu'on a pu croiser en ville par la suite, c'était effectivement très rassurant en termes d'information, mais aussi savoir que s'il se passait quoi que ce soit, en fait, durant le temps fort de mobilisation de samedi, nous, on pouvait être là et prendre la parole pour toutes ces personnes qui, avaient peur de se sentir peut-être isolés dans la masse, quoi, depuis cet espace entre Vanzay et Sainte-Soline. Et oui, je crois que ça a créé un lien très fort, en fait, entre nous et les personnes mobilisées. Et on s'est rendu compte qu'on était très écoutés. Il y avait une place, en fait, où étaient installées toutes les cantines militantes et puis l'espace, je dirais, plus festif avec les chapiteaux qui allaient ensuite accueillir les concerts pour le samedi soir et le dimanche. Il y avait aussi toutes les conférences qui étaient organisées dans la ville de Mel. Ils avaient installé des enceintes sur la place qui retransmettaient Méga Radio, et à plusieurs reprises, quand on a eu l'occasion de passer sur cette place, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes qui se rassemblaient en fait autour des enceintes. Et même le samedi, en fait, durant le temps de mobilisation, dans la mesure où on rediffusait les vocaux des personnes qui étaient sur place et de nos reporters aussi qui étaient sur place, parce qu'on avait des reporters en fait au sein des cortèges qui témoignaient en direct, cela permettait à toutes ces personnes qui n'avaient pas pu se mobiliser dans la marche entre Vanzay et Sainte-Soline, de suivre tout ça à distance. Et voilà, cela a créé quelque chose, je pense, de très fort, quoi, une interaction très forte entre Mel, Vanzay, Sainte-Soline, toutes les personnes qui étaient à l'extérieur et qui nous écoutaient. C'était une expérience très riche.
Comment, toi, tu t'es retrouvée à participer au projet Méga Radio et quel était ton rôle précis au sein de cette radio ?
Alors, je ne pense pas préciser mon rôle, mais comment je me suis retrouvée à participer à ce projet Méga Radio, c'est lié à des rencontres, c'est-à-dire que j'étais présente, en fait, sur la mobilisation d'octobre dernier à Sainte-Soline, qui était la dernière grosse mobilisation sur place. Et dans ce cadre-là, on fait des rencontres, et des rencontres dans un contexte souvent assez intense. Et c'est aussi un temps où, entre personnes de radio, on se voit en fait en train de travailler, on échange sur nos pratiques, parfois on écoute le résultat aussi. Et c'est suite à cela en fait que j'ai rencontré deux personnes qui m'ont ensuite convié en fait à participer à ce projet.
Comment elle s'est organisée, cette radio éphémère, sur le moment et en amont, que ce soit en termes éditorial ou même technique?
Alors en fait, cette radio, elle s'est organisée quelques semaines en amont, dans un espace de travail où nous étions toutes et tous réunis pour échanger nos idées. Mais j'ai envie de dire que jusqu'au jour J, la ligne éditoriale, elle n'était pas vraiment fixe, quoi. En fait, tout dépendait un petit peu aussi de ce qu'il allait se passer sur le terrain. Ce qui était organisé, c'était vraiment nos arrières, quoi, nos plans B, si jamais le direct ne fonctionnait pas, si jamais on n'avait pas autant d'invités que prévu en studio. Si jamais les choses ne se passaient pas comme prévu, on avait vraiment assuré un contenu pour y faire face. Mais le fait est que tout ce qui allait toucher de près ou de loin au direct, c'est vraiment organisé au fur et à mesure, en fait, des événements sur place, quoi. Et ça s'est très bien passé, et notamment la journée du samedi, qui était vraiment la journée, le temps fort, en fait, de cette mobilisation, et qui était la journée avec le plus de points d'interrogation, quoi, parce qu'on ne savait absolument pas comment allaient se dérouler les choses. Tout s'est très bien enchaîné. Après, évidemment, il y a tout ce qui se passe sur le terrain et qu'on ne peut pas appréhender en amont. Tout ce qui s'est passé du côté des blessés, et quand on doit annoncer à l'antenne, en plein direct, que des personnes sont grièvement blessées, c'est quelque chose, en fait, auquel on ne peut pas se préparer, quoi. Il y a eu des moments évidemment très durs aussi pour nous, très, très intenses, bien qu'on était en base arrière et que cela n'avait rien à voir avec le fait d'être sur le terrain. Et qu'à ce moment-là, évidemment, on pense à toutes les manifestantes et les manifestants, on pense à tous les reporters qui sont sur place. On n'a pas les images visuelles, on ne sait pas, ce qui se passe précisément. On a des retours, on a des informations, mais on n'y est pas. Et ça, c'était quand même, c'était dur, quoi. Et donc voilà, je dirais que la ligne éditoriale, elle a suivi en fait tout simplement le fil de l'info au plus près de la mobilisation avec une priorité au direct. Et sur le plan technique, ce sont en fait des radios associatives qui ont accepté de déplacer tout simplement des studios mobiles, quoi. On était très bien équipés.
Et est-ce que finalement tout ça correspondait à ce que tu avais pu imaginer ?
Oui, je pense qu'il y a peut-être encore à imaginer, en fait, autour de ces radios éphémères qui couvrent ce genre de mobilisation et qui travaillent en collectif, quoi. Ces radios Canu, en fait, qui, il y a un an, avaient suivi comme ça une mobilisation des soulèvements de la Terre. Et ils avaient mis en place, lors de cette mobilisation, un plateau commun avec Fréquence Paris Pluriel via l'émission Zoom Écologie. Donc, je ne sais pas s'il y avait eu auparavant d'autres initiatives de ce type-là et d'autres exemples. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire un peu plus grand en rassemblant différentes personnes de radio en France. Mais le fait est que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, j'ai trouvé le résultat en tout cas très positif. Mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas eu une EFM locale. J'en profite par ailleurs pour préciser que la radio locale, puisque c'est quelque chose qui nous a beaucoup été dit sur le territoire, la radio locale, à savoir D4B, qui est une radio très importante sur le territoire du sud de Sèvres, a été sollicité pour participer. Et le fait est que ce n'était pas possible pour eux de s'associer à ce projet. Pour des raisons qui leur appartiennent, voilà, je ne vais pas en parler à leur place. Mais toujours est-il qu'ils ont été invités, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que l'AFM reste un point de contact très important, surtout sur ces territoires qui, on a tendance à l'oublier, mais sont encore des territoires avec pas mal de zones blanches. C'est-à-dire des territoires où on n'a pas toujours le réseau. En fait, pour écouter du stream. Et la FM, est pour moi le seul point de regret.
Le fait que la mobilisation ait été interdite, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous, pour les personnes qui participaient à la radio ?
Je ne suis pas spécialiste des lois, mais je pense pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire que je pense que bien que la mobilisation soit interdite, cela n'empêche pas qu'on puisse et qu'on doive la couvrir. Et de toute façon, oui, illégal n'est pas illégitime. Donc non, je pense que pas grand-chose. Peut-être qu'on aurait davantage risqué, effectivement, à s'emparer d'une fréquence FM. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. C'était du stream, quoi. Donc je crois que c'est OK.
Et de ton côté, comment tu as vécu la mobilisation ? Quels échos, quels retours tu avais ?
Eh bien, de mon côté, c'était vraiment sur deux niveaux. C'est-à-dire que, à la fois, j'étais vraiment, d'une certaine façon, privilégiée. Je ne sais pas si c'est le mot, mais je n'ai pas dormi en tente. Dans un terrain humide, dans le vent. Je n'étais pas non plus cette fois-ci dans le cortège de samedi. Je suis restée en fait du côté de la base arrière. En ce sens, effectivement, je pense que mon expérience de cette mobilisation, elle est tout autre, quoi. Parce que les personnes qui ont dormi une nuit, deux nuits, dans les conditions climatiques qu'on avait ce week-end, qui ont ensuite participé à la marche entre Vanzée et Sainte-Soline, qui était d'une violence inouïe. Eh bien, évidemment, mon expérience à moi, elle est tout autre, quoi. Moi, je suis restée du côté de cette base arrière, où, pour le coup, il y avait énormément d'enthousiasme, énormément de chaleur, énormément de personnes. J'ai discuté avec un homme assez âgé, qui, du fait de son âge, en fait, ne pouvait pas participer à cette marche entre Vanzée et Sainte-Soline et qui m'a expliqué être venu d'un autre département juste pour pouvoir aider et pour peler des légumes afin de faire la soupe pour plusieurs milliers de personnes le samedi soir. Dans la ville de Mel, on avait énormément de personnes comme ça qui, du fait de conditions physiques, parfois même par peur de participer à cette mobilisation parce que, bah oui, ça fait peur quand on sait qu'on aura des forces de l'ordre en quad. On annonçait aussi des chevaux. Enfin, en fait, effectivement, il y a tout un discours qui est mis en place pour faire peur. On a bien vu qu'on allait au-delà du discours et qu'on était prêt, du côté des forces de l'ordre, à aller bien plus loin, quoi. Et donc la peur, moi, je la comprends. La peur, elle est légitime et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les personnes qui restent déterminées et qui n'hésitent pas. Et j'entends dans le même temps toutes les personnes qui se mobilisent en fait autrement et qui décident de rester sur la base arrière pour apporter leur aide et qui contribuent à la mobilisation d'une autre façon, dans les cuisines militantes, du côté de la signalétique, dans une mobilisation. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que les gens, peut-être aussi, ne s'en rendent pas compte. C'est peut-être important de le rappeler aussi, quoi, que là, du côté de la ville de Mel, il se passait beaucoup de choses extrêmement positive, l'ambiance était très familiale, très chaleureuse, très enthousiaste. J'étais plutôt là-dedans. À partir du samedi après-midi, quand on a commencé à voir les premiers blessés qui sont arrivés en fait dans la ville, très rapidement, on a vu des médecins qui étaient restés sur place, des infirmières, des infirmiers, sur la place centrale de la ville, en recherche de soutien, en recherche de matériel médical. Et là, en fait, on a plongé dans autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans une ambiance très chouette et très joviale. Et tout à coup, on a compris que sur le terrain, la situation était extrêmement grave. Pour moi, là, oui, on est passé dans autre chose, quoi. Mais pour revenir sur les échos et les retours que j'avais, j'ai l'impression que tout le monde était dans un état d'esprit très positif et très pacifiste avant le départ et que les gens sont revenus extrêmement éreintés, choqués, traumatisés. On a vu des personnes, extrêmement, extrêmement éprouvées par les scènes de violence de la part des forces de l'ordre, dont elles et ils avaient été témoins durant ce temps de mobilisation entre Vanzay et Sainte-Soline. C'était dur, quoi. C'était dur. C'était dur pour tout le monde. Le lendemain, le pôle psychologique, etc., était débordé. Voilà.
Est-ce que tu sais, est-ce que tu penses, tu espères qu'il va y avoir une suite pour Méga Radio ?
Évidemment, je pense qu'il y aura une suite sur le champ des mobilisations du côté des méga-bassines. Donc pourquoi pas conserver le nom Méga Radio, mais en tout cas, dans ce qu'il s'est joué là entre nous toutes et tous, oui, je pense qu'il y aura une suite, que couvrir ces mobilisations en direct, que ce soit la mobilisation contre les chantiers de méga-bassines et peut-être d'autres mobilisations, puisqu'en ce moment, comme vous le savez, il y en a beaucoup. Oui, cela nous parle. Et oui, je crois que ces radios ont un sens aujourd'hui qui va au-delà, en fait, de ce qu'on s'était représenté et imaginé. Je pense qu'on va en reparler, qu'on va débriefer et que nous remettrons des choses en place par la suite, oui.
Et dernière question, peut-être à titre plus personnel, qu'est-ce qui t'anime, toi, dans ta participation à cette lutte ?
Eh bien, à titre plus personnel, ce qui m'anime, c'est que, comme beaucoup de personnes, je suis assez sensible à la question de l'eau. Et je viens d'un territoire où la sécheresse est très présente, où le manque d'eau, on le voit. Les conséquences sur la biodiversité, elles sont visibles aussi depuis plusieurs années. Je dirais aussi que l'accaparement des terres et l'accaparement de manière plus générale est un sujet auquel je suis assez sensible aussi. Et bon, voilà, sans développer et sans entrer dans des choses trop intimes, les conséquences de l'agro-industrie dans mon entourage personnel, c'est quelque chose que je connais très bien aussi, à savoir les gens qui meurent et qui meurent très jeunes. De conséquences liées à des maladies, que ce soit des cancers, que ce soit des maladies dont on n'avait jamais entendu parler avant, des parcours médicaux extrêmement longs, des personnes qui meurent bien avant la retraite. C'est quelque chose que je connais très bien. Et en cela, les mégabassines représentent aussi un symbole de tout ce qu'on ne veut plus. Et je dirais aussi que ce qui anime, eh bien, c'est de voir en fait toutes ces personnes de tout âge. Ce sont vraiment des personnes de tout âge. Ce ne sont pas des jeunes casseurs comme le montrent certains médias privés. Non, ce sont des personnes de tout âge qui sont des personnes extrêmement pacifistes, qui défendent des idées très concrètes. Et ce qui m'anime, eh bien aussi, ces personnes, c'est de les rencontrer, c'est de discuter avec elles, c'est de partager des expériences de vie et de s'apercevoir en fait qu'on a toutes et tous beaucoup de points communs dans cette lutte, qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Et moi, j'invite vraiment les agricultrices et les agriculteurs qui sont pieds et poings liés dans un système à discuter, en fait, avec ces personnes-là. La question de l'eau, elle concerne tout le monde. Elle est internationale. Elle dépasse, évidemment, le territoire de Sainte-Soline. Cela va bien au-delà. Et c'est un enjeu fondamental, en fait. Pour les années à venir.
Merci beaucoup, Rose, d'avoir répondu à nos questions sur Prune. Merci d'avoir contribué à faire connaître un peu plus les coulisses de ce projet de Méga Radio. Et puis, bonne continuation.
Eh bien, merci à vous. Au revoir.
Et de retour au direct, n'oubliez pas que pour protester contre cette dissolution, comme l'a dit Rose du mouvement donc des soulèvements de la Terre, il y a une tribune à retrouver sur leur site internet. Et puis petit message perso contre les gendarmes en ce moment, c'est pas parce qu'on fête les béliers qu'il faut agir comme tel. Voilà, retour à Curiosité. Et retour à nos chroniques, à nos musiques. Et elle aurait pu nous parler du comeback d'Avril Lavigne, car cette saison. Mais non, Camilia revient plutôt sur la une du futur Playboy.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Et oui, c'est le moment de revenir sur la nouvelle qui a agité toutes les rédactions ce week-end, mais aussi une grande partie de la presse étrangère, des États-Unis à l'Inde. Marlène Schiappa va poser en une de Playboy. Alors promis, ce n'est pas une fake news du Gorafi. De toute façon, on ne les entend plus trop en ce moment. Hein. La sortie en kiosque du magazine est prévue le 8 avril prochain. Alors moi je les vois venir, hein, ceux qui vont me dire qu'il s'agit d'une stratégie de communication astucieuse pour détourner l'attention des médias et des Français de la réforme des retraites que le gouvernement veut toujours faire passer en force, ou encore de la répression policière qui inquiète désormais jusqu'à l'ONU et que le gouvernement voudrait bien faire oublier, mais non. Car ce photoshoot dans Playboy agace la Macronie, et même s'il est accompagné d'une interview fleuve où Marlène défendra les droits des femmes, la majorité présidentielle s'est dite embarrassée. Alors, quelques photos ont déjà fuité, mais malheureusement pour ceux qui ont un petit crush sur Marlène, Enzo, bouche-toi les oreilles, il n'y aura pas de photo nude. Marlène Schiappa se tient par exemple debout, en robe blanche et le regard au loin, devant un drapeau français, dans une pose qui rappelle un peu la figure nationale de Marianne. Sans doute un clin d'œil subtil à la polémique du fonds Marianne à laquelle elle est mêlée et qui a éclaté quelques jours avant l'annonce de sa collaboration avec Playboy, hasard du calendrier. Alors le fonds Marianne, c'est quoi ? C'est un fonds de 2,5 millions d'euros créé par Marlène Schiappa en 2021, après l'assassinat de Samuel Paty, pour promouvoir sur Internet les valeurs républicaines et combattre les discours séparatistes. Le petit problème aujourd'hui, ce sont les soupçons de détournement d'argent public par une des associations bénéficiaires dont les deux dirigeants se sont octroyés 120 000 euros de salaire sur 335 000 euros de subventions pour un travail remarquable de 13 vidéos produites avec une moyenne de 50 vues sur YouTube et un compte Facebook ayant 5 amis. Voilà donc des révélations qui éclipsent l'efficacité du travail actuel au gouvernement de Marlène Schiappa en tant que... Attendez, j'ai mes notes quelque part. Ah oui, elle est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Bon bah du coup, c'est un peu dur cette polémique, hein. C'est juste son économie sociale et solidaire, elle quoi, c'est tout, non? Bon, et puis, à ceux qui s'indignent qu'elle ait choisi de parler à Playboy, je vous rappelle que la semaine dernière, Emmanuel Macron a accordé une interview à Pif Gadget. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette référence médiatico-politique, leurs lecteurs ont à peu près le même âge que ceux qui lisent Picsou Magazine. Des rumeurs disent d'ailleurs que les chargés de com' d'Emmanuel Macron ont aussi hésité avec le journal de Mickey. Mais bon, Mickey, McKinsey, ils ont eu un peu peur de la confusion. Et puis on n'oublie pas non plus Olivier Dussopt qui a fait son coming out dans le magazine Têtu il y a 2 semaines. Donc face à la stratégie disruptive de sélection des médias de la part du gouvernement en ce moment... Une seule conclusion s'impose. La semaine prochaine, c'est Gérald Darmanin dans Biba.
Oh, oh non.
Touchez pas à Ouest France, c'est tout. Merci beaucoup Camilla pour cette superbe chronique encore une fois. Retrouvez évidemment en replay sur le site de Prune. Alors on continue l'émission. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril, je le répète, et c'est l'anniversaire d'Eddie Murphy. Et pour l'occasion, on lui dédicace cette pause cadeau.
La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour le concert de Émilie Simon au VIP de Saint-Nazaire. Elle s'est installée comme l'une des artistes majeures sur la scène française et internationale. La première partie sera jouée par la Nantaise Élise Bourne. Et donc, on se retourne doucement avec la suite de l'émission et le morceau Fire Eyes de Élise Bourne. N'oubliez pas d'envoyer un message sur Instagram de Prune si vous voulez gagner les places. Et c'est tout de suite sur Prune.
Silence so beautiful, I've forgotten how to breathe. Fire unexplainable, it's around. To lose myself inside your fire, burning in the depths of you. To lose myself inside your fire. How nice to
C'était un extrait de Fire Eyes d'Émilie Simon. Et on va continuer dans la douceur et la volupté avec la chronique d'Enzo.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Et oui, il n'y a pas que Marlène Schiappa qui énerve et qui agace, comme nous l'a bien dit Camilla, et nous l'avons tous un peu vu ces derniers temps, l'homme qui est dans le viseur d'une partie des Françaises et des Français, c'est bien Emmanuel Macron, le président de la République. Et oui, encore lui en même temps, c'est tellement c'est croustillant de parler de lui, il sait faire parler de lui. Alors, sans revenir sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a tendance à agacer, énerver, non pas uniquement pour sa politique, mais pour sa posture, son comportement. Le président est souvent qualifié de méprisant, hautain, sûr de lui, déconnecté, hors sol. Il y a aussi cette image du président qu'on dit jupitérien, c'est-à-dire un homme à la toute-puissance, vertueux, qui décide seul, sans l'aide et l'avis de personne. Certains y voient même du césarisme, à savoir un mode de gouvernement absolu où tous les pouvoirs sont exercés par un seul homme. La seule différence, c'est qu'il s'est fait plébisciter par le peuple. Bon, c'est un argument contestable, mais cette image d'un homme fort, on l'a vu lors des manifestations sur des pancartes, le renvoie même à Louis XVI. Alors une question se pose, cette assurance que montre Emmanuel Macron relève-t-elle de l'amour propre? Emmanuel Macron est-il aveuglé ou pas par l'amour de sa propre personne au point de se mettre en danger? Alors s'il y a bien un intellectuel ou plutôt un moraliste ayant fait de l'amour propre le cœur de son œuvre, c'est François de La Rochefoucauld, né à Paris en 1613, issu d'une famille de la très haute noblesse et lui-même duc de son état. Il embrasse d'abord une carrière militaire, puis se consacra à la politique de son temps et sera notamment une figure de la Fronde, très intéressant. Réaction parlementaire et nobiliaire contre l'autorité monarchique. En termes contemporains, c'est si une partie de la majorité de la Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, se retournait contre lui. Alors pour La Rochefoucauld, le grand ressort des sentiments et des comportements humains se trouve dans l'amour propre, défini comme, je cite, « l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes et les rendrait tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens. » C'est-à-dire que toutes nos actions sembleraient déterminées, peut-être de manière inconsciente, à notre propre intérêt et à l'image que l'on renvoie aux autres de nous-mêmes. Finalement, l'amour propre est comme une forme transformée ou une extension de l'amour de soi quand le regard d'autrui s'immisce dans les relations humaines. Alors l'amour de soi, c'est la volonté naturelle de se conserver soi-même. La poursuite de nos intérêts naturels, comme manger et boire. Ou s'il y a un danger, nous nous protégeons. Ça, c'est l'amour de soi. Mais dans le contexte de société, l'amour propre est cet amour que nous vouons à nous-mêmes, conscients de notre importance dans le monde à l'égard des autres. C'est-à-dire montrer aux autres, par notre confiance à nous-mêmes, notre importance devant les autres. Alors pour revenir à Emmanuel Macron, souvenez-vous, hein, lors des élections, la première élection de M. Macron en 2017, la presse nationale, comme étrangère, présentait Emmanuel Macron comme un homme jeune, ambitieux, actif, intelligent, cultivé, capable de renouveler la politique française. C'est peut-être là le problème, puisqu'Emmanuel Macron est très conscient de sa valeur aux yeux des autres. Il est lui-même convaincu de ses attributs. Là, le président devient agaçant aux yeux des Françaises et des Français. Si on revient sur l'allocution du président dans le journal de 13h pour parler de sa réforme des retraites, le président s'est justifié sur sa décision avec ces phrases. On l'écoute.
Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
Dites-le nous.
Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis?
Oui.
Peut-être. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous, par le sens des responsabilités. Et c'est l'intérêt général.
Alors si l'on reprend le « oui, peut-être », dit de manière désinvolte, on remarque bien que Emmanuel Macron représente bien l'idée de La Rochefoucauld, comme quoi, je cite, « l'amour-propre est le plus grand des flatteurs ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'Emmanuel Macron s'est montré dans une posture d'un président qui sacrifie sa popularité au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'est positionné comme un homme conscient de faire le bien des gens malgré eux. En gros, si l'on caricature, « puisque je suis si intelligent, laissez-moi faire malgré votre désaccord, vous comprendrez plus tard ». La conscience de son intelligence et de sa supériorité intellectuelle sur le reste de la population lui permet de défendre cette réforme comme étant nécessaire et légitime pour établir la justice dans un système au bord de craquer. Emmanuel Macron est confiant, convaincu de s'inscrire dans la postérité de manière positive. Il serait comme un avant-gardiste incompris de tout le monde. Il est persuadé que dans quelques années, les Françaises et les Français le remercieront d'avoir réajusté le système avec pour conséquence que sa popularité post-présidentielle sera reconnue un jour ou l'autre par l'ensemble de la société. La Rochefoucauld le dit encore très bien lorsqu'il écrit « Il est aussi honnête d'être glorieux avec soi-même qu'il est ridicule de l'être avec les autres. Il est l'un des seuls à être convaincu de cette réforme. » Alors l'autosuffisance que Emmanuel Macron croit posséder le rend irritant pour certains et certaines. Les phrases et les sourires lancés par le président, inflexibles face aux revendications de la rue, rend sa posture désinvolte et nourrit la contestation. Encore une fois, cette tendance à vouloir gérer seul les affaires du pays, confiant de ses vertus par amour propre, donc La Rochefoucauld caractérise cette attitude en écrivant « C'est une grande folie de vouloir être sage tout seul, car ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités, il faut en avoir l'économie. » Emmanuel Macron est certes compétent dans beaucoup de domaines, mais gérer la vision qu'il a de ses compétences en est une autre. Eh bien oui, puisque celui qui croit pouvoir trouver en lui-même de quoi se passer de tout le monde se trompe fort. Mais celui qui croit qu'on ne peut se passer de lui se trompe encore davantage. Mais toutefois, La Rochefoucauld prévient et met en garde contre tout excès d'amour-propre et écrit de manière très brillante la phrase suivante « Le vrai moyen d'être trompé, c'est de se croire plus fin que les autres. »
Aïe, aïe, ok. Merci beaucoup, Enzo. Very intéressant. Est-ce que tu crois qu'Emmanuel Macron, il se regarde devant le miroir ? Il se parle à lui-même ?
À l'intérieur de lui, il se parle à lui-même, ouais.
Voilà, bah merci. Voilà, c'était une réponse très concise. Alors, on continue, vous écoutez toujours, peut-être par hasard, curiosité, mais peut-être pas, parce que vous attendez peut-être d'avoir l'interview de nos prochains invités. On est très heureux de recevoir Agogazo, un groupe togolais, donc dans nos studios. Mais Ametek est là, l'un des membres du groupe, mais il est également accompagné de plusieurs personnes. Il y a du beau monde dans le studio. Il y a Sophie, la manageuse d'Abstract, et Jocelyn, programmateur à Trempo, c'est ça ? Bienvenue.
Merci. Merci, salut.
Salut. Eh bien, on va en savoir un peu plus sur le nouvel album qui vient de sortir et ça va être au micro de Lisa.
Curiosité. Portrait de vie.
Et oui, on parle ce soir d'Agogazo, un groupe mixant électro et gazo, soutenu et coproduit par les assos Abstract et Trempo. Cette nouvelle formation a sorti un album le 15 mars. Alors, on accueille à cette occasion Ametek, qui appartient au groupe Agogazo, et Sophie et Jocelyn, qui représentent respectivement les assos Abstract et Trempo. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Et puis, bah, merci d'être venu ce soir. Alors, Ametek, c'est votre premier album avec Agogazo. C'est un projet dans lequel vous êtes trois musiciens, donc Vidoc, Zeppo et toi-même. Tout d'abord, comment est-ce que le groupe s'est formé ?
D'abord, pour rectifier, Agogazo, ce n'est pas un groupe togolais, mais c'est un groupe d'artistes qui se sont retrouvés sur des projets et que ce projet a donné Agogazo. Donc, c'est un regroupement d'artistes. Je peux dire franco-togolais.
Franco-togolais,
ok, ouais. Okay, mea culpa.
Et bien la question c'était...
Comment le groupe il s'est formé, enfin, comment vous êtes rencontrés, comment le projet est né?
Oui, comme je le disais tout à l'heure, on s'était rencontrés, en fait, les artistes abstracts, j'ai eu à travailler avec eux ici à Nantes, on s'était rencontrés dans le studio sur des projets, et qui ont abouti à un festival qui s'appelait Good Money Africa au Togo. On a eu à faire trois éditions ensemble, avec la participation de la mairie de Nantes, de l'Institut français, de Paris et de Lomé. On était partis faire trois éditions. Et la quatrième édition n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait la Covid. Mm. Et c'est en cette période que nous avons eu l'idée d'écrire un projet. Et nous avons pensé écrire un projet de fusion musicale, travailler là-dessus et voir ce que ça peut donner. Mm. Heureusement, bon, ça a plu aux institutions comme Trempolino a accepté de nous accompagner, Abstract et d'autres, et la mairie de Nantes aussi. Donc on était parti au Togo pour déjà faire, comment on dit, inspecter, c'est-à-dire aller acquérir des savoirs, aller s'enquérir de la musique gazo, parce qu'on avait choisi la musique gazo, qui est de chez moi, qui est une musique un peu, qui est musique électronique, si je peux dire ainsi. Et, en fait, électrique, je vais dire. Ouais. C'est électrique, voilà. C'est électrique, qui est un peu... Voilà, c'est guerrier.
Okay.
Donc, on avait choisi la musique gazo, vu que mes collègues, mes amis d'Abstract, ce sont des DJ qui officient dans la musique électronique, musique qui fait danser. Donc, on a eu l'idée de fusionner ces deux musiques-là pour pouvoir faire quelque chose d'hybride. Mm. Et c'est ce qui a donné Agogazo aujourd'hui.
Alors, vous avez sorti un album le 15 mars dernier. Quelles ont été les étapes de création de cet album ?
Tout d'abord, on a commencé le travail ici. Et nous avions mis les bases de la musique. En fait, le projet se repose sur le gazo, les rythmes gazo. Donc, on a eu à poser les bases, à faire les percus. Moi, j'ai fait les percus au studio, à Trempolino. Et après, nous étions partis au Togo pour pouvoir aller s'imprégner des chants traditionnels, s'imprégner des frappes, des percus. Vu que bon, ça fait un moment, ça fait longtemps que j'ai quitté le village, j'ai pas trop de... Voilà. On est parti là-bas pour avoir des informations, travailler avec d'autres artistes là-bas, enregistrer, avoir des éléments. Et on est revenu ici. Et Abstract a pris les éléments avec Didier Vidocq. On travaille là-dessus, faire la prod. Et après, on a rejoué certains trucs, rechanté des chants. Et on a eu aussi à travailler avec des mamans, des vieilles, des mamans âgées, de troisième âge, là-bas au village. On a eu à travailler avec elles, au studio, et avec un groupe de Gazo, de Zolo aussi. Donc, on a eu à ramener tous ces éléments-là pour pouvoir faire un melting pot. Et c'est ça qui va sonner tout à l'heure sur les ondes de Prune.
Du coup, oui, ces femmes chanteuses d'Ala Wokbe. C'est de ces femmes-là dont vous parlez.
Oui, les femmes chanteuses d'Alaw, oui, oui, ce sont des femmes qui sont en quelque sorte des gardiennes de la tradition, qui essaient de sauvegarder et de garder ce qui se faisait dans le temps et que, pour que ça ne disparaisse pas. Ce sont des femmes à la base qui sont des artistes nés et que pendant les réjouissances, que pendant les décès, elles s'organisent automatiquement, sans que personne ne les force. Elles s'organisent automatiquement. Elles chantent pendant la cérémonie, que ce soit. C'est surtout pendant les deuils. Donc, c'est des artistes nés. Elles jouent en même temps les gonds, les castagnettes. Elles chantent. Elles font les chœurs sans qu'il y ait de maître. Elles n'ont pas appris la musique, mais quand elles chantent, tu sens les chœurs, quoi. C'est comme une chorale. Donc, elles ont gardé cette manière de chanter. Et à travers leur chant, il y a des paroles qui soit encouragent ou qui soit apaisent les cœurs ou qui donnent des conseils. Et c'est selon les circonstances. Et donc, du coup, on a eu à travailler avec elles sur le festival. À chaque fois, elles chantent et on a eu l'idée de les produire. Et on était allés au studio, ils ont sorti leur album. Mais quand on faisait Agogazon, on a pensé qu'il faut qu'on fasse au moins un morceau avec elle, vu qu'il y a d'autres artistes du Togo qui ont travaillé avec elle aussi, à l'instar de Long Vince. Donc nous aussi, on a eu l'idée de faire un morceau avec elle sur cet album. Et c'est comme ça qu'on est parti à Lomé, on les a organisés, allés en studio, répétés avec elle, et puis on a ramené les éléments. Et c'est le morceau Mamao, Mamao et Kini Dob.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a un esprit assez émotionnel dans tout ça, qui se retrouve dans Agogazo, parce que ce qu'on peut lire en description du groupe, c'est « Agogazo pose la dalle d'un genre hybride sur laquelle les notions de transe et de libération font flotter leur drapeau. » À quel point ces sentiments de transe et de libération, vous avez voulu les faire réapparaître, enfin, les transmettre en tout cas dans Agogazo ?
Transe parce que la musique gazo, à la base, c'est une musique guerrière, comme j'ai dit. Oui. L'histoire du gazo, comme on était parti là-bas, et il y a les vieux, ils nous ont expliqué qu'au départ, cette musique a été révélée par les fas. Les fas, c'est les divinations. Parce qu'avant, c'était... Ils vivaient en Égypte antique, et il y avait des problèmes, et ils ont dû quitter l'Égypte antique pour pouvoir descendre dans le subsaharien. Donc, dans leur périple, ils ont traversé des fleuves, traversé des contrées, des forêts, des cités. Donc sur la route, ils ont eu à faire des combats, à lutter contre les animaux féroces. Et ce qui fait qu'il y a eu des moments quand ils avaient des décès dans la communauté, on exposait le corps. Le temps qu'on dorme, le lendemain, on ne retrouve plus le corps. Et les hyènes, ou soit les autres peuples viennent voler le corps, ou un lion qui vient dévorer le corps. Et c'est comme ça que les vieux se sont assis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont fait les divinations, on a dit qu'il faut que vous restiez à côté du corps et vous jouez telle chanson, vous prenez tel instrument, vous jouez, vous dansez comme ça, et vous mettez le feu autour, vous mettez autour du feu, auprès du corps, toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Comme ça, quand vous dansez, vous chantez, la manière dont vous dansez, avec transe, avec force, avec rage, avec couteau sur la bouche, quand l'hyène ou le lion il arrive, il dit « mince, les gens là, ils sont chauds. »
Ils s'approchent pas.
Voilà, ils s'approchent pas. Donc c'est ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que pendant la cérémonie, il faut qu'on joue du gazo. Et gazo, c'est gajo. Ah. Ga, c'est le fer en épée. D'accord. Et le Jo, c'est le feu. Donc, okay. Gadjo. Donc, du coup, autour du feu, ils jouent comme s'il y a du fer. Ils ont les gants en fer et ça sonne, king, 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 king. Et ça résonne ça, à des distances. Donc, avec les chants, les claps et le feu, donc ça fait Gadjo. Mm. Ah, la musique de fer, musique de feu.
On dit Gadjo ou on dit Gazo?
On dit Gadjo. Dans notre langue, Gadjo, mais avec le. Avec les. Comment on dit, la concentration, les frottements des ethnies ou des communautés. Ça fait qu'il y a le langage aussi, ça change, ça a changé un peu. Mm. C'est le gazo, c'est le minan qui est dilué dans l'épée, au fait, à la capitale. Mais chez nous, au village, c'est le gadjo.
Mm. Et vas-y. Maintenant, on le prononcera bien. Et comment vous en êtes venu à collaborer avec les associations Trampo et Abstract? Et est-ce que vous pourriez nous dire, Jocelyn et Sophie, ce qui vous a séduit dans ce projet?
Ce qui nous a séduit. Alors déjà, Vidoc est co-créateur de Abstract, donc ça permet quand même d'ouvrir les portes facilement. Que lui a parlé, enfin, il nous parle de ce projet à tous, à toute l'équipe Abstract, du coup, depuis longtemps. Et en effet, il y avait Good Morning Africa Festival. Donc tout ça, c'est aussi comme une espèce de continuité évidente. Mm. Où du coup, il a dit, est-ce que on produirait pas avec Ametech ce projet qui leur tenait à cœur? Et nous, on a dit banco. Donc on est parti voyager avec eux. Donc ce dernier voyage qui était il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. On est parti en équipe là-bas et on a du coup nous aussi on s'est immergé avec eux pour vraiment comprendre ce dont on parlait parce que c'était important aussi pour nous. Et avant ça, on a toqué à la porte de Trampo et à la porte de Jocelyn pour lui dire est-ce que ça te dirait pas que Trampo travaille avec nous sur ce projet? Et là, il a dit quoi?
Il a dit oui.
Trop facile.
Il a dit oui et voilà, on est hyper fiers aujourd'hui d'avoir abouti à ce projet-là. Ouais. Tu veux rajouter un truc, Jocelyn?
Peut-être que c'est ce que je peux rajouter, c'est quand même c'est la jeunesse, c'est 2 ans de travail. Enfin, quand Abstract est venu nous voir à Trampo, et je te pince encore si tu dis Trampolino. Ah, mais
c'est vrai, ça a changé.
Et quand Abstract est venu toquer à la porte, c'était pour nous proposer différents projets. Pas forcément avec l'accent le plus fort sur Agogazo, mais nous, en fait, sur les 3 ou 4 projets qu'ils nous ont proposés, on s'est dit c'est celui-ci qu'on veut accompagner parce que ça rejoignait un petit peu ce que je défends sur le pôle programmation de Trampo, à savoir travailler autour des cultures émergentes dans les musiques, d'une façon plus, avec des focus sur des scènes internationales. Donc ça faisait sens. Surtout que je suis le travail d'Abstract depuis un petit moment. Et ça tombait bien parce que c'était vraiment l'année où Trampo injectait un peu d'argent pour aider des coproductions, en fait, et participer à des coproductions, des projets de coproduction, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Donc voilà, ça a été un travail. À la base, c'était un apport financier. Finalement, ça s'est décliné jusqu'à maintenant sur du conseil, sur du réseau, sur pas mal de choses, quoi. Et donc c'est une aventure un peu collective.
Alors, Agogazo se produira le 6 avril prochain à Trampo à 21h dans le cadre d'une release party. À quoi il faut s'attendre pour cette soirée?
À la fête.
Yes.
Agogazo, c'est la fête. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, je sais pas, Ametech ne contredira pas. C'est à la fois profond et c'est à la fois aussi un moment de rassemblement.
Des moments de guérison aussi. Parce que guérison, c'est, enfin, trans, tout ce que ça. C'est spirituel, le gazo. Et tous ceux qui sont un peu démoralisés ces temps-ci avec les problèmes de retraite, il y aura même manif le jour là. Donc oui, après le manif, faut aller en
déstresser.
Voilà. Surtout que la soirée est gratuite.
Voilà, voilà. Et surtout, j'ai appris qu'il y aura pleine lune, donc on serait.
Et moi, je rajoute une petite pierre à l'édifice de type plaisir, c'est qu'on fait gagner, du coup, si vous voulez appeler, je ne sais pas comment on va faire, on s'en fout. Je fais gagner un vinyle et des codes de téléchargement aussi pour tous ceux qui seraient contents d'avoir Agogazo sonner dans leurs oreilles.
C'est que le numéro, il n'a pas changé, donc si tu veux le
faire. C'est vrai, parce que je le connais, c'est 02 42 09 12.
Perfect.
Et c'est parti.
C'était il y a 15 ans, mais je m'en rappelle encore.
On a dit un paquet de fois. Qui est au standard ce soir? Lola, toujours dans les
bons.
Lola Agenda.
Alors, on va vous retrouver du coup jeudi pour la release party. Alors, il y a plein d'autres événements dont on ne va pas forcément pouvoir parler là tout de suite. En tout cas, plusieurs festivals cet été, plusieurs soirées. Si vous avez 2-3 dates à dire rapidement, rendez-vous à...
Oui, du coup, vous pouvez aussi retrouver Agogazo le 9 juin à Landeda pour le Horizon Open Sea Festival. Le 7 juillet, pour le festival Apotheo, c'est le nouveau festival d'Abstract, première édition. Et le Yota Festival, c'est au mois de... le 20 août. Voilà, c'est sur l'île d'Oléron. C'est voilà les dates pour l'instant.
Ok, bah super.
Et le projet a retrouvé en écoute à Gogazo sur le Bandcamp
Voilà. Sur si le Bandcamp, sur les plateformes en streaming, on est partout. Si vous tapez à Gogazo, vous allez nous trouver.
Ouais. Important de le rappeler. Bah, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. À Metech du groupe Agogazo, Sophie de Abstract et Jocelyn de Trampo. Auditeurs et auditrices, on vous attend pour la release party de Trampo jeudi à 21h et on vous souhaite beaucoup de succès.
Merci beaucoup.
Merci. Exactement. Moi, j'ai écouté votre EP en préparant cette émission et j'ai adoré. Merci.
On sera là jeudi.
Et si j'étais pas hyper de charme, j'aimerais figer le temps pour écouter la chanson Mamao, mais je pense qu'on n'a pas le temps. 30 secondes ? Allez, c'est parti, Kelig. C'était donc un extrait d'Agogazo. Merci encore d'être passé chez nous.
Merci à vous.
Alors, on continue la mission, c'est presque la fin. Il est toujours là, là où on ne l'attend pas. Je ne sais même pas si c'est son hologramme ou s'il est véritablement là ou pas. C'est la chronique de Victor.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Celle du Godspila, qui n'est pas malgré son nom une table basse d'un fabricant de meubles suédois, mais plutôt le groupe armé ultra top secret pour l'indépendance de la Loire-Atlantique. Nous allons le suivre, découvrir les convictions et les objectifs des membres de ce qui est devenu une véritable milice paramilitaire. Nous sommes le 12 janvier 2023, à l'heure où blanchit la campagne. Je rejoins le lieu où tout s'organise, où tout se prépare, et où tous les plans de toutes les opérations spéciales sont élaborés. Aujourd'hui, Yann Keradek et son équipe vont préparer un coup. Il va s'agir de s'introduire dans la crêperie, la crampouserie, de rue des Moulins, et de dérober un secret convoité par tous depuis des siècles, si ce n'est plus, la recette ultime des galettes bretonnes.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez JP Paganelli, à Ajaccio, puisque le combat que mènent nos frères corses est assez similaire au nôtre. Donc on va aller chercher des explosifs pour faire péter le coffre de la crêperie, la crampouserie.
Et nous partons vers l'aéroport. Toutefois, une voiture noire s'insère dans la file, 4 voitures derrière nous, et commence à nous suivre.
Allez-y monsieur, je vous laisse avancer.
Monsieur, vous avez quelque chose en métal sur vous ? Et Yann est obligé de laisser ses 4 couteaux et autres pistolets à la consigne de l'aéroport.
Et quand je serai maître du monde, les contrôles à l'aéroport, ce sera terminé. Hein.
Et une fois passé ce petit incident, nous nous rendons vers la porte d'embarquement et décollons.
Je suis malade en avion. Ah Walker avec, comment tu vas ?
Paganelli, le baron corse, est venu nous chercher à l'aéroport.
Eh, vas-y, je vais mettre la radio dans la bagnole. Hein.
Vous êtes sur Corsica FM. Et tout de suite, on s'écoute le top 5 des meilleures explosions.
Toutefois, Yann Karadak semble vouloir mettre une autre fréquence. Il cherche un peu et tombe sur la dite fréquence qu'il adore, qu'il écoute en boucle depuis que nous sommes partis de l'aéroport.
Curiosité.
De la pétanque et un petit jaune, hein, enfin.
Eh ben, enfin, t'as tout compris.
Après une demi-heure de route, nous arrivons sur une petite colline avec une superbe villa perchée. Nous descendons dans la cave et là, pistolets, fusils, grenades, C4, nitro et TNT à profusion y sont entreposés.
Bon, vas-y, serre-toi, hein.
Nous repartons chargés comme des mules et prenons cette fois-ci le bateau.
Oh, j'ai le mal de mer.
Une fois à Nice, nous passons saluer le chef local des forces obscures, un certain Eric Ciotti, puis repartons. Au milieu de l'autoroute vers Nantes, la voiture noire de retour active ses sirènes et nous intime de nous ranger sur le bas-côté. Chargés comme nous le sommes, nous feintons un demi-tour et la voiture de nous poursuivant se retrouve hors d'usage. Nous repartons.
Oh, un péage. Attends un peu. Allez, chef, ainsi autoroute.
À suivre.
Vraiment, voilà des chroniques de plus en plus sophistiquées. Merci beaucoup, Victor. Et vive la galette. Juste avant de terminer, on a un petit bonus audio à passer. C'est nos amis de l'ITEP qui veulent nous parler d'une petite exposition à Ancenis.
Salut, vous êtes sur Radio Prune et vous avez de la chance. L'atelier création artistique de l'ITEP Célestin Trenet vous invite au vernissage de l'expo Sans Limite, proposé par NR Graf, Lulu Lavride et The Capman. Sans Limite, c'est le lundi 4 avril à 17h30 au Café de la Gare à Ancenis. Pas de panique, si vous n'êtes pas dispo, l'expo sera en place jusqu'au 29 mai. Big up à Radio Prune et à l'asso Contradiction qui nous ont permis ce jingle pub. Sans Limite, c'est le 4 avril à 17h30 au Café de la Gare à Ancenis.
Excellent, le message est passé. Allez, hasta luego, pistolero. Merci encore pour cette belle émission. Il y avait beaucoup de monde, c'était un programme chargé. N'oubliez pas de boire de l'eau, surtout celle du robinet, et puis d'écouter du gallo. Ciao à tutti. Maintenant, c'est Money Time. J'espère qu'on va pas se prendre un carton rouge pour les 2 minutes de retard.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.